Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous l'ouvrirons dans le livre des Actes pour un premier texte au chapitre 16. Actes chapitre 16 et nous lirons les premiers versets, les trois premiers versets. Nous voyons l'apôtre Paul qui est reparti en voyage missionnaire, c'est le deuxième voyage missionnaire. Et nous arrivons ici au chapitre 16 où il traverse la Syrie, la Cilicie, en affermissant les églises. Et voilà qu'il parvient à Derbe. Donc chapitre 16, verset 1. Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Jusqu'ici la lecture dans Actes, et nous allons ensuite maintenant dans l'épître à Timothée. Donc là on a rencontré Timothée, où on le voit pour la première fois dans le Nouveau Testament. Et nous allons ici dans l'Épître à Timothée, la première Épître à Timothée. Et aujourd'hui, nous allons méditer particulièrement deux versets qui seront la porte d'entrée à ce livre de Timothée, les deux premiers versets de 1 Timothée. 1 Timothée 1, les versets 1 et 2. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu, le Père, et du Christ Jésus, notre Seigneur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons encore chanter un chant avant de laisser les enfants aller à la garderie et entendre la prédication. Le chant que nous allons chanter est le numéro... Non, mais il n'y a pas de chant, excusez-moi, là, il viendra après ce chant. Ça va être un peu la fatigue. Non, la prédication est maintenant. Enfin, donc les enfants peuvent rejoindre la garderie pour les plus petits. Et pour ceux de l'école du dimanche, je vous encourage à prendre les petits papiers. Vous pouvez remplir les questions. C'est quelque chose qui peut vous aider à rester aussi avec nous dans le cadre du culte. C'est fait pour vous et pour tous ceux qui veulent les prendre, évidemment. Et donc les enfants savent que quand je répète deux fois une phrase, généralement il y a quelque chose à compléter dans les petits papiers. Voilà, je vous invite à garder vos Bibles ouvertes dans 1 Timothée que nous allons donc étudier ensemble. Romains 8 nous dit que c'est l'Esprit qui nous permet d'appeler Dieu notre Père avec tout ce que cela signifie. C'est l'Esprit qui le permet. Dans 1 Corinthiens 12, il nous est dit que c'est l'Esprit qui nous permet de dire « Jésus est Seigneur » avec tout ce que cela signifie. Et 1 Corinthiens 2 nous dit que ce n'est qu'en ayant l'Esprit de Dieu que nous pouvons recevoir les choses de l'Esprit, ces choses qui sont contenues dans sa parole. Ma prière ce matin est donc que chacun, nous soyons puissamment travaillés, touché, rempli, guidé par le Saint-Esprit pour saisir les richesses de sa parole et ne pas partir d'ici comme on est arrivé. Parce qu'on désire que Dieu travaille nos cœurs. Donc, ma prière, ce n'est pas que ce soit moi qui travaille vos cœurs. Je cherche simplement à être un transmetteur et je prie que l'Esprit travaille nos cœurs. Je fais partie des auditeurs aussi. Nous voilà aujourd'hui face à un nouveau livre biblique dans lequel nous allons plonger. Donc nous allons faire une prédication, exposition sur toute l'épître à Timothée. Et c'est le début. Et en fait, c'est un cadeau de pouvoir ouvrir la Bible de Dieu, d'être guidé, encouragé, exhorté et par celui, l'Esprit Saint, qui a inspiré toute l'Écriture. Dieu a utilisé l'apôtre Paul pour écrire cette lettre à son fils spirituel, Timothée. En fait, l'église d'Éphèse a besoin d'être protégée, guidée, structurée, encouragée, reprise, aimée, avertie et stimulée. En fait, c'est tous les thèmes. Donc l'église d'Éphèse a besoin d'être protégée, guidée, structurée, encouragée, reprise, aimée, avertie et stimulée. Bon, vous dites, on est dans Timothée, tu nous parles d'Éphèse. Oui, parce que Timothée est à Éphèse. Voilà pourquoi je parle d'Éphèse. C'est pourquoi Paul parlera ici dans cette lettre rapidement de la réaction à avoir face aux fausses doctrines. Il parlera de la place des hommes et des femmes dans l'Église. Il donnera le plus grand développement du Nouveau Testament sur les critères des anciens et des diacres. Il soulignera l'importance de l'Église pour le maintien de la vérité. Il parlera de ceux qui abandonnent et de ceux qui persévèrent. Il donnera des instructions pour les relations dans les différents groupes relationnels dans l'Église et pour l'aide aux différentes personnes dans la difficulté. Et il mettra en lumière des faux enseignants et leurs motivations. Et il terminera par encourager à vivre le bon combat de la foi. C'est la vue d'ensemble de tout le livre, de toute l'épître à Timothée. Mais il ne faudra jamais oublier, durant tous ces moments d'étude de cette épître, ce que nous allons voir aujourd'hui. Ne jamais oublier ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est une lettre, cette lettre est un écrit apostolique, avec l'autorité de Jésus-Christ. Ce n'est pas un écrit d'un homme qui donne son avis et son point de vue. Ce serait important de s'en souvenir. Et deuxièmement, cette lettre est un écrit affectueux à un fils spirituel, centré sur l'Évangile comme un héritage. Ce n'est pas un écrit détaché de Christ qui est le centre de toute la parole de Dieu. Non, c'est un écrit affectueux où l'Évangile est au centre. Et ça sera nos deux points, en fait. Un écrit apostolique et un écrit affectueux. Donc je commence par l'écrit apostolique, vous pouvez regarder avec moi dans vos Bibles le verset 1 qui sera l'élément qu'on va essayer de bien comprendre. Et je pense qu'on aura tellement pris de temps sur ce texte qu'après la prédication, vous devriez le savoir par cœur. C'est assez court ce qu'on voit aujourd'hui. Donc la première partie, Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu fait l'exercice, mais il est très riche ce texte, juste ce verset. Par exemple, on va un peu l'observer déjà, il est écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Donc là, la première chose que vous pourrez vous demander, c'est quoi un apôtre ? Ou encore, « apôtre de Jésus-Christ par ordre ». Il est parlé d'un ordre ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui détermine qui est apôtre ? Après, il est parlé par ordre de Dieu et du Christ Jésus. Et là, on a une piste qui nous parle de quelle autorité est-il question. Intéressant de voir que Paul donne deux personnes ou deux sources de l'ordre qui est donné, hein, de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Et là, on se dit, mais pourquoi il prend ces deux éléments ? Il va parler d'une caractéristique fondamentale, en fait, du message de l'apôtre. On va tenter de répondre à ces quelques questions ensemble. Donc, je commencerai par vous parler de la notion d'apôtre. Dans Luc 6, 13, nous pouvons constater que Jésus fait une distinction entre les disciples et les apôtres. Parce qu'en fait, tout chrétien est un disciple, mais tout disciple n'est pas un apôtre. Tout chrétien est un disciple, mais tout disciple n'est pas un apôtre. Hein, Luc 6, 13, vous pouvez aller regarder en gardant votre petit doigt dans Timothée pour y revenir. Donc si vous allez chercher ici Luc 6, 13, on n'ira pas chercher chaque passage, mais celui-là, on peut aller le voir. Où il est dit, quand le jour parut, donc Jésus a pris du temps pour prier, il a passé une nuit en prière ici. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. tous les disciples ne sont pas apôtres. Jésus en choisit 12. Et il est intéressant de voir que la Jérusalem céleste, qui est une illustration du royaume de Dieu, porte le nom de 12 apôtres. C'est vraiment intéressant. Ce qui me fait dire qu'il n'y en a pas d'autres qui ont l'autorité de fondement. Il n'y a pas d'autres apôtres que ces 12 qui sont écrits sur Jérusalem qui ont l'autorité de fondement. Ce qui est écrit dans Apocalypse 21, 14, il est dit « La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. » Les apôtres sont des envoyés qui représentent celui qui les envoie avec son autorité. Voilà ce que c'est qu'un apôtre. Les apôtres, en fait, ont l'autorité de Christ. Les apôtres ont vu Jésus ressuscité et ont été appelés par Jésus. Ça donne des critères importants. Les apôtres ont vu Jésus ressuscité et ont été appelés par Jésus. Et Paul a vu Jésus et il a été appelé par Jésus. Paul, quand il parle de son arrivée dans l'apostolat, dit ceci dans 1 Corinthiens 15, les versets 7 à 9. Ensuite, Jésus a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul se sent petit. Bon, il y a un jeu de mots, hein. Paul ça veut dire petit, mais bon. Paul se sent petit, mais néanmoins apôtre. Il n'est pas en train de dire qu'il ne l'est pas. Il se sent vrai petit, mais il est apôtre. Avec la même autorité et les mêmes promesses que les 11 qui restent après la mort de Judas. Rappelons-nous donc des promesses que Jésus dit à ses apôtres, qui sont aussi pour Paul. Dans Jean 16, quand il était avec eux encore, il a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous, les apôtres, conduira dans toute la vérité. » Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. L'esprit de vérité conduit dans toute la vérité. Les écrits des apôtres sont la vérité, car ils sont inspirés par le Saint-Esprit que Jésus avait annoncé. Et ils font s'en souvenir lorsque nous lirons chaque partie de la lettre de Timothée. Parce que certains relativisent ou écartent des choses que Paul a dites. Mais il a l'autorité que personne ne peut prétendre avoir aujourd'hui. Les apôtres, peut-on dire, sont les prolongements de Christ. Jésus a d'ailleurs dit à ses disciples ceci dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » C'est comme un prolongement de Jésus. Le Saint-Esprit enseigne et rappelle ce que Jésus a dit. Il enseigne et rappelle ce que Jésus a dit. Les apôtres n'amènent rien de nouveau. Ils n'ont pas de révélation personnelle à transmettre. Les apôtres n'ont pas de révélation personnelle à transmettre, mais la parole de Christ. C'est la parole de Christ que les apôtres ont à transmettre. Et Paul était conscient que ses paroles étaient comme celles même d'un prophète de l'Ancien Testament, alors qu'il était dit « Ainsi parle l'Éternel ». Ça, c'est fort, il le dit ça dans 1 Corinthiens 14, versets 37 à 38. Il dit « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'ils reconnaissent que je vous ai écrit, que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. » Éphésiens 2, 19 à 20, nous indique que les apôtres sont le fondement sur lequel s'appuient tous les concitoyens des saints, que l'on appelle membres de la famille de Dieu, ceux qui sont en Christ. Donc là, Éphésiens 2, 19, 20, c'est un texte qu'on connaît, qu'on a déjà étudié quand on avait étudié Éphésiens. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. » Les fondements ne sont pas posés plusieurs fois. à moins qu'on reconstruise une maison ailleurs. Mais les fondements sont posés une fois. Et il en est de même pour la maison de Dieu, Jésus étant la base qui tient tout. Paul est un apôtre de Jésus-Christ. Mais regardons bien de quelle manière dans 1 Timothée 1:1, ce qu'il le dit, hein, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. Par ordre de Dieu. En fait, Paul n'a pas reçu une invitation optionnelle, un conseil ou une possibilité de prendre ou laisser. Non, il a reçu un ordre auquel il ne pouvait pas résister. Paul n'a pas reçu une invitation optionnelle, un conseil, une possibilité à prendre ou à laisser, non. Il a reçu un ordre auquel il ne pouvait résister. Et là, vous vous souvenez peut-être de quand il explique sa conversion hein, dans Actes 9. Et on va un petit peu regarder ça rapidement. Donc, si vous voulez regarder dans Actes 9, verset 1. Donc, il y a deux fois où Paul explique plus longuement sa conversion. Et il y a dans Actes 9, c'est la première fois. Donc Acte 9, verset 1, on lira jusqu'au verset 6. Cependant Saul, c'est le nom hébreu de Paul, hein, on parle bien de la même personne. Donc cependant Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes qui suivaient cette voie et les amènent à Jérusalem. Petite pause, cette voie, c'est ceux qui suivent Jésus-Christ. Je reprends au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et il répondit, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillants. » Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Jusqu'ici la lecture. Paul n'a pas choisi lui-même d'être apôtre de Jésus-Christ. Il l'est par un ordre de Dieu et du Christ. Si Dieu n'avait pas arrêté Paul sur le chemin de Damas, Paul n'aurait pas arrêté de persécuter l'Église de Jésus-Christ. Paul, en fait, peut faire sienne cette parole que Jésus a dit à ses apôtres lors du dernier repas avec eux. Il leur a dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Vous savez, Paul, il ne s'est pas autoproclamé apôtre. Tout à coup, il s'est dit « Voilà, je veux devenir apôtre ». Non, c'est Jésus-Christ qui lui a ordonné d'être apôtre de Jésus-Christ. Notons bien encore deux choses. La première, il est dit « apôtre de Jésus-Christ ». Il y a des petits mots importants parfois. Cela signifie qu'il n'est pas apôtre pour son propre compte. Comme nous l'avons déjà vu, il représente celui qui l'envoie, Jésus-Christ. Et il ne voudra rien annoncer d'autre que Christ mort et ressuscité. Vous le retrouvez dans 1 Corinthiens 2:2 ou Galates 2:20 ou d'autres textes encore. Apôtre de Jésus-Christ. Deuxièmement, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. Pourquoi ces éléments-là du Sauveur et de l'espérance ? Eh bien, c'est parce que ça souligne le message fondamental des apôtres, donc également de Paul. C'est le salut de Dieu et l'espérance en Jésus-Christ. Et ça reste notre message, encore aujourd'hui, fondamental. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est connaissez-vous le salut de Dieu ? Vivez-vous dans l'espérance de Jésus-Christ ? Parce que là, si vous n'êtes pas conscient que vous méritez le jugement de Dieu, pas conscient, que votre péché vous condamne et que vous avez vraiment besoin d'un sauveur, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Si vous n'êtes pas conscient que vous méritez le jugement de Dieu, que votre péché vous condamne et que vous avez vraiment besoin d'un sauveur, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Et attention, il ne s'agit pas seulement d'être triste de conséquences néfastes du péché, hein, comme le fait que on nous fait plus confiance après qu'on ait menti. Voilà, on regrette. Non, je ne parlais pas de ça ici. Bien sûr qu'on regrette. Mais ça, c'est des conséquences. Ou bien, on regrette de ne plus pouvoir donner la vie à celui ou celle que l'on a tué, même encore dans le ventre de sa mère. Oui, c'est vrai que les conséquences peuvent amener à désespérer. Mais ma question, sommes-nous vraiment saisis par l'horreur du péché lui-même ? Le péché n'est pas défini par nous d'ailleurs, en lien avec ce qu'on considère comme bien ou mal, mais défini par Dieu lui-même comme définissant ce qui est bien et mal. Paul est envoyé par un Dieu sauveur qui veut purifier, racheter, transformer et être le souverain roi de nos vies. Pas juste excuser ou compenser quelque part les frustrations qu'on pourrait avoir parce qu'on pêche. Non, il veut nous sauver, nous arracher de cette situation de pécheur, nous racheter. Et Paul est envoyé par Christ qui est notre espérance, lui qui a tout accompli pour nous racheter, pour nous laver de nos fautes, qui nous donne un accès au Dieu de grâce, qui est notre seul espoir en tout temps pour notre salut. Notre seul espoir. Est-ce que Jésus-Christ est votre seul espoir ? Lorsque vous faites du mal, est-ce que vous cherchez juste un moyen d'effacer ou que personne ne sache ce que vous avez fait ? Ou bien est-ce que votre espérance, elle est en Christ seul ? Lui qui est venu pour payer, effacer et nous libérer de l'esclavage du péché. Le péché caché nous rend esclaves. Est-ce que nous cherchons, lorsque nous faisons du mal, à faire beaucoup de bonnes actions pour couvrir cette faute ? Ou est-ce que c'est Jésus qui est vraiment notre seule espérance pour être libéré de ce péché ? Jésus a dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils, c'est exclusif, hein, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Cela signifie que nous n'avons que deux états possibles en tant qu'humains. Avoir la vie éternelle en croyant au Fils ou avoir la colère de Dieu qui demeure sur nous en ne se confiant pas au Fils. Et les écrits de Paul sont divinement inspirés pour nous amener à comprendre notre profond état de pécheur. Et comme le dit quelqu'un que j'apprécie, on n'arrivera jamais à comprendre la profondeur de l'état de pécheur dans lequel on est. Et en même temps, l'immense grâce de Dieu du salut et de Christ notre espérance. Et là aussi, on n'arrivera jamais vraiment à comprendre la grandeur, l'immensité de la grâce et de l'amour de Dieu envers nous. Donc voilà, ici ce message, hein, par ordre du Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Si le patron d'une grande entreprise envoie un représentant de son entreprise, si j'ai un employé, pour payer ses dettes, un employé il a des dettes, il y a le patron, grand patron, il dit « je veux l'aider lui », et puis il envoie quelqu'un, un représentant, vers la personne pour dire « tes dettes sont effacées ». Va-t-il le saisir ? Va-t-il le croire ? Et en plus, il apprend que ce patron est également le président de son pays et qu'il lui donne l'ordre de recevoir ce cadeau, cette remise de dette. Est-ce qu'il va l'accepter ou le refuser ? Eh bien, nous sommes face à ce cadeau. et cet ordre pour le salut de nos âmes, pour la dette de notre péché. En fait, Dieu nous envoie des personnes par sa parole aussi qui est proclamée pour dire « J'ai payé, repens-toi, viens !» Et c'est le maître de l'univers. Donc non seulement il dit ça, mais il dit « Il faut venir pour être sauvé. » Aurons-nous le respect des écrits apostoliques transmis une fois pour toutes? Faisons-nous confiance à cette épître de 1 Timothée, même lorsque les sujets vont peut-être nous déranger? En tout cas, je pense que Timothée a reçu cette lettre avec reconnaissance, avec respect, avec confiance, avec révérence. Pour les enfants, quand je dis Timothée a reçu, c'est pas moi, enfin je la reçois aussi, hein, mais c'est le Timothée de l'époque de Paul. Donc apprenons maintenant à connaître un peu le destinataire de cette lettre, c'est mon deuxième point, un écrit affectueux. Regardons le verset 2. Donc le verset 1, je crois qu'on commence à le connaître. Hein. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, bien Dieu sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. On commence à l'avoir en tête. Ensuite, verset 2. « À Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. » Quel privilège pour Timothée de recevoir une lettre à son nom. C'est le seul d'ailleurs à avoir reçu deux lettres personnelles de l'apôtre qui sont retenues dans le canon. Il y a Tite qu'on a reçu une aussi, c'est vrai. Et c'est les deux seuls d'ailleurs, Timothée et Tite, à être appelés enfants légitimes dans la foi. Il y a aussi Philémon, c'est vrai, qui a reçu une lettre, mais pas de la même manière. On n'a pas cette notion, mon enfant légitime en la foi, comme on l'a ici pour Timothée et Tite. Alors, est-ce que ça signifie que Paul n'a parlé de l'évangile à personne d'autre, qu'il a que conduit Timothée et Tite à Christ, puisque c'est les deux seuls qui disent mes enfants légitimes? Eh bien, je ne le pense pas, parce que Paul a en fait une relation particulière avec eux. Et tous les croyants, d'ailleurs, ceux qui sont en Christ, nous sommes tous des enfants spirituels. Tous ceux qui sont en Christ sont des enfants spirituels. Nous ne sommes par contre pas tous des parents spirituels. Mais nous pouvons tous le devenir. Donc tous ceux qui sont en Christ sont des enfants spirituels. Nous ne sommes pas tous des parents spirituels, mais nous pouvons tous le devenir. Et voici quelques exemples dont Paul nous parle d'enfants qu'il a eus, parce qu'il en a d'autres aussi. Un premier que nous avons vu il n'y a pas longtemps, on avait étudié donc l'épître à Philémon, où là il disait dans les versets 9 et 10, « J'aime mieux te prier au nom de l'amour », il parlait à Philémon, hein, « tel que je suis moi, Paul un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. » Onésime, ouais, c'est ça. C'est lui qui est venu à Christ alors que Paul était en prison. Et nous comprenons que Paul était en prison et a conduit Onésime à la foi en Jésus-Christ. Il est ainsi un enfant spirituel de Paul. Paul explique aussi aux Corinthiens à qui il avait annoncé l'évangile, là il le dit à l'Église, hein. En effet, vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous est engendré en Christ Jésus par l'Évangile. Paul, dans ce texte, indique que c'est lui qui est l'envoyé du Christ qui est à l'origine de leur foi. Il engendre en Christ par l'Évangile. Nous pourrions dire qu'il accouche des enfants qui sont unis à Christ par l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. 1 Pierre 1,23 nous indique comme cela se passe. Ce n'est pas par une semence comme un homme pourrait le faire en allant vers une femme, c'est par la parole vivante et permanente de Dieu que la vie est transmise. Il faut donc annoncer l'Évangile de façon explicite, de l'exprimer pour le faire connaître clairement, non pas seulement implicitement, mais explicitement, cherchant même à vérifier si l'autre a bien compris. Voici ce qui est dit dans 1 Pierre 1,23. « Vous qui avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. » Et là, il dit ce que c'est, « par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors, comment cela s'est-il passé pour Timothée ? Or, on a lu Actes 16, 1 à 3. Pour la petite boutade, quand quelqu'un me demande mon prénom, j'ai dit la première fois qu'on le trouve, c'est dans Actes 16. Voilà, donc si on connaît sa Bible, il faut chercher, puis on trouve tout de suite le prénom. Donc Actes 16 nous donne les informations concernant Timothée et sa rencontre avec Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Donc quand il vient à Derbe, hein, vous vous rappelez tout à l'heure, Timothée est déjà un disciple. C'est son enfant ou c'est il était déjà disciple. Vous voyez, comment Paul pouvait-il être le père spirituel de Timothée ? Eh bien, nous lisons dans Actes 14, donc un petit peu avant, que Paul, dans son premier voyage missionnaire, est déjà passé à Lystre et à Derbe, où habitait Timothée. Dans ce contexte, il n'est pas parlé de Timothée. Il est juste dit, Actes 14, je vous lis, et comme les païens et les juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de la Lyconie, Lystre et Derbe, et dans les environs. Donc ça, c'est où habitait Timothée. C'est donc sûrement lors de son premier voyage missionnaire que Paul a annoncé l'évangile à Timothée. Nous n'avons pas cette histoire, ce récit ne nous est pas parvenu. Mais ensuite, lors de son deuxième voyage, c'est dans Actes 16, qui nous donne ses indications. Ils parvinrent ensuite à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme fidèle juive et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, il le prit donc et le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc non seulement Paul trouve un Timothée qui est disciple de Jésus-Christ, non seulement il trouve Timothée qui est des disciples de Jésus-Christ, mais en plus les frères de Lystre et de la région rendent un bon témoignage de lui. Ils rendent un bon témoignage de lui. C'est une motivation, en fait, à vivre fidèlement et savoir ainsi que nous aurons un bon témoignage qui glorifie Dieu simplement en vivant fidèlement. Et j'aime donner des bons témoignages de beaucoup d'entre vous quand je parle de vous, de parler de votre foi, de votre désir de grandir, de votre désir de progresser, de faire face aux différentes difficultés en mettant notre foi en Dieu, etc. Donc Paul va emmener Timothée avec lui, et comme il est juif, il va le circoncire. Paul ne circoncira pas Tite, qui est aussi un enfant légitime pour Paul dans la foi, mais Tite n'est pas juif. Donc voilà pourquoi il ne le circoncit pas. Timothée va accompagner Paul dans une grande partie de son ministère. En fait, il sera avec lui, je pense, une bonne vingtaine d'années avant que cette lettre arrive, avec lui. Il a vécu avec lui, il a fait les voyages avec lui. Et souvent, on voit même qu'il est co-auteur de plusieurs épîtres. Quand Paul écrit à différentes églises, eh bien, vous verrez Paul avec Timothée, et puis même dans Thessaloniciens, vous avez Paul, Timothée et Sylvain. C'est le verset que mes parents ont pris, comme ça, ils avaient déjà deux prénoms. Donc Paul parle par exemple de ce que Timothée a fait avec lui dans 1 Corinthiens. « À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous le rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. » En fait, Timothée est devenu tellement proche de Paul que lorsqu'il ne pouvait pas aller quelque part, ou qu'il devait être à deux places en même temps, ben, il envoyait Timothée. Puis en fait, Timothée, c'était une reproduction de Paul, si vous voulez, qui allait annoncer l'évangile aussi là où il était envoyé. Dans Philippiens, Paul souligne qu'il n'a personne comme Timothée qui est concerné par la situation des Philippiens. C'est assez fort, je vous le dis quand même ce texte, dans Philippiens 2, 19 à 22. Il a dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. » Et c'est très fort parce que dans Philippiens, Paul prend trois modèles pour les Philippiens. Le premier, c'est évidemment Jésus-Christ, et ensuite il prend Timothée et Épaphrodite comme exemple. On ne trouve on pourrait dire, sûrement aucune recommandation plus grande dans la Bible que celle de Paul qui recommande Timothée ici. Il a fait ses preuves et il est consacré au service de l'Évangile. Il ne cherche pas son intérêt. Il est consacré, il a une légitimité dans cette filiation. Et dans 1 Timothée 1, 2, Paul fait des parallèles avec ce qu'il a dit lorsqu'il s'est présenté. Son enfant légitime a des éléments semblables tout en étant différent. On va essayer de les voir ensemble maintenant. Donc on va lire ces versets pour les avoir en tête. Donc verset 1, Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre, puis là on verra, de Dieu notre Sauveur et du Christ notre espérance. On continue, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Nous voyons deux parallèles ici qui enrichissent la compréhension. On voit d'abord Dieu qui est présenté comme notre Sauveur, on en a parlé tout à l'heure, et Dieu le Père. On voit Jésus-Christ qui est présenté comme étant notre espérance, on l'a vu tout à l'heure, et Jésus-Christ notre Seigneur. Alors si Paul est un père spirituel pour Timothée, le père qui a donné la vie spirituelle est en réalité Dieu, qui nous adopte par l'œuvre de son esprit. Si Paul est un père spirituel pour Timothée, le père qui a donné la vie spirituelle est en réalité Dieu, qui nous adopte par l'œuvre de son esprit. Voilà pourquoi il parle de la part de Dieu, le Père. Et si nous lisons Romains 8, 14 à 17, il est parlé de cette filiation. Et là, prenez aussi vos bibles, un petit doigt dans Timothée, bien que vous commencez à connaître par cœur le texte. Et on va aller dans Romains 8 pour voir ce que dit ce texte sur cette filiation. Je ne vais pas tout lire le texte, je prends juste à partir du verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Ou encore, dans Galates 4, les versets 4 à 6, celle-là je vous les lis. « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit du Fils qui crie « Abba ». Père, exactement. En fait, c'est la glorieuse vérité de ceux qui sont chrétiens. Nous avons un Père parfait. Nous pouvons l'appeler Père avec confiance et respect. Tous ceux qui sont en Christ ont un Père parfait. Plus besoin de le chercher, de l'inventer ou de l'imaginer. Nous avons un Père et l'Esprit de Dieu nous donne cette joie et cette paix de pouvoir lui dire « Abba, Père ». C'est l'Esprit de Dieu qui met ça dans nos cœurs. On ne peut pas expliquer cet élément-là. Enfin, on a l'information que c'est l'Esprit dans nos cœurs qui nous permet de dire « Abba, Père ». Mais on ne peut pas expliquer le fonctionnement, c'est son œuvre. De même, pour le deuxième parallèle, avec le Christ Jésus, il est dit à Timothée que Jésus est Seigneur. Et cette expression est aussi remplie de sens et d'enseignement. Elle est aussi en lien avec l'esprit d'ailleurs. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 12, 3, ça c'est très fort quand même ce qui est écrit là, « C'est pourquoi je vous le déclare, nul s'il parle par l'esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème » et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'esprit. » Attention. Il ne s'agit pas simplement de dire les mots « Jésus est Seigneur ». Il ne s'agit pas simplement de dire ces trois mots. Parce que l'IA peut le dire sans que le Saint-Esprit agisse, évidemment. Donc il y a intelligence artificielle. Non, il s'agit ici d'une parole qui remplit le cœur, qui accepte la signification et qui déclare publiquement. que Jésus est Seigneur. Donc il s'agit d'une parole qui remplit le cœur, qui accepte la signification et qui le déclare publiquement. Jésus est Seigneur signifie en fait, il est roi de ma vie. Actuellement, on n'a pas trop l'habitude, enfin je ne sais pas, vous avez l'habitude de dire à vos profs, Seigneur, non. On n'a pas l'habitude de voir des gens qui sont au gouvernement puis de leur dire, Seigneur, pour dire qu'on les respecte, non. C'est un terme qu'on n'utilise plus tellement. Et on n'a même pas de roi en Suisse. Donc on a de la peine à dire à quelqu'un, mon Altesse, mon Seigneur. Et puis parfois, on voit juste ça comme une petite expression. Mais attendez, Seigneur, ça veut dire « Tu es roi sur moi. Tu as autorité sur moi. Je veux te servir. Je te suis soumis. Je veux vivre selon ta volonté et non la mienne. » Voilà ce que ça veut dire. Comprenez, quand on dit l'expression « Jésus est Seigneur », on commence à comprendre cela, ben, ce n'est pas juste une IA qui dit « Jésus est Seigneur ». Et cela se traduit dans notre vie et dans notre manière de vivre. C'est la vie de Jésus qui compte dans ce que nous faisons, nous disons, nous pensons, agissons, entreprenons. En fait, il est au centre du contrôle de nos vies si nous disons que Jésus est Seigneur. Ah, j'aurais vraiment envie de faire autre chose que d'aller au culte pour adorer Dieu. Non, Jésus est Seigneur. Je ne peux pas faire autrement que d'aller louer Dieu. Et d'ailleurs, je me rends compte à chaque fois que je suis bien mieux avec Dieu. Oh, mais j'ai envie d'une relation amoureuse avec une personne qui ne connaît pas Dieu et dont Jésus n'est pas le Seigneur. Non, Jésus est Seigneur. Je ne peux pas faire autrement que de préparer et vivre une alliance avec une autre personne dont Jésus est Seigneur. Et lorsque je la vis, je me rends compte de la profondeur de la relation qui n'est pas possible en dehors de Jésus-Christ. Vous pouvez continuer avec différents sujets qui pourraient vous attirer, mais qui démontrent clairement que ce n'est pas ce que Jésus veut. Non, Jésus est Seigneur. Et nous vivons ce qui est bon selon lui. Et à la fin, en fait, nous serons toujours paisibles et profondément heureux, même si les épreuves ne nous sont pas épargnées. C'est cela ce que signifie Jésus est Seigneur. Que seuls ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu peuvent dire. Il n'y a qu'un Seigneur pour celui qui est en Christ. De plus, le Père et Jésus sont un seul Dieu. Le Père et Jésus sont un seul Dieu, et on le voit dans Corinthiens qui le souligne, car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel ou sur la terre, de fait qu'il y en a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Écoutez bien la suite. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui vient toute chose et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Un seul Dieu. Un Père et un Seigneur, Jésus-Christ, qui forment un seul Dieu. Et en conclusion, j'aimerais encore voir avec vous les trois magnifiques termes que Paul souhaite à Timothée. Parce qu'on ne les a pas touchés pour l'instant, au verset 2. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a trois termes, on n'en a pas parlé pour l'instant. C'est la grâce, la miséricorde et la paix. La grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père, on a parlé du Père, et du Christ, Jésus notre Seigneur. On a parlé de Jésus et Seigneur. Donc Paul dira à Tite, dans Tite 3, 4 à 7, alors ça vous pouvez regarder dans vos Bibles parce qu'il faut juste tourner 3, 4 pages et vous êtes dans Tite, hein. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Et là, au chapitre 3, verset 4, il est dit... Alors, 3. Donc, Tite 3, verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. » Il l'a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ce texte me permet de prendre ces deux termes ici, dans ce contexte-là, pour nous aider à comprendre un ou deux éléments sur ces sujets. Il y a différence entre la miséricorde et la grâce. En fait, la miséricorde est liée à la régénération et au renouveau du Saint-Esprit. dans ce texte de Tite. La miséricorde est liée à la régénération et au renouveau du Saint-Esprit. Par la miséricorde, Dieu nettoie et fait les choses nouvelles. En fait, généralement, la miséricorde est vue comme une approche de celui qui souffre, qui est dans la peine. Celui qui est miséricordieux, il s'approche de celui qui souffre et qui est dans la peine. C'est la bienveillance, la douceur de Dieu pour celui qui souffre. Ensuite, la grâce est liée à la justification qui nous donne un nouveau statut et nous engage dans le chemin de l'héritage, dans Tite. Donc la grâce est le moyen de rejoindre celui qui est dans la condamnation, dans la culpabilité, qui doit faire face à cette situation de pécheur. Et c'est la grâce qui amène Dieu à nous voir au travers de Jésus, qui a pris sur lui nos fautes, qui a vécu une vie parfaite, afin que sa justice nous soit donnée. Et Romains 5:1 nous permet de faire le lien avec la paix, justement. Étant donc justifiés par la foi, on voit que ça vient de la grâce, on l'a vu dans le texte précédent, dans Tite, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Là, je pense qu'on ne peut que saisir ce que signifie la paix avec Dieu si nous comprenons la colère de Dieu qui est sur le pécheur. Mais quand nous la saisissons, nous voyons ici, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que vous puissiez saisir ce que signifie cette paix avec Dieu. Non seulement la colère est enlevée, et c'est une juste colère, mais cette paix avec Dieu nous donne une intimité profonde avec lui qui nous permet de grandir, de progresser et de l'aimer toujours plus et de nous rendre compte qu'il nous aime encore bien plus que ce qu'on peut l'aimer et que ce qu'on peut imaginer. Moi, je nous encourage à méditer, peut-être encore aujourd'hui ou demain ou dans les jours qui viennent, à ces trois termes. Miséricorde, grâce et paix. Et je vais relire encore une dernière fois 1 Timothée 1 et 2, qu'on l'ait bien en tête, mais en nous rappelant que toute l'épître devra être lue à la lumière de ce qu'on voit ici. C'est très riche ce qu'on a ici. Et en fait, chaque fois qu'on sera dans un autre endroit dans l'épître, on devra se souvenir en fait que ces éléments-là sont les fondements de tout ce qui va être annoncé par la suite. Cette lettre est écrite avec une autorité apostolique. Ce sont les paroles de Jésus que nous lisons du début à la fin de 1 Timothée, même les passages qui sont moins faciles à accepter. Et ensuite, cette lettre est écrite avec affection, ayant le salut de Dieu et l'espérance découlant de Christ comme objectif et comme moyen, vivant la filiation avec le Père Céleste et la soumission au Seigneur de l'univers. Regardez une dernière fois avec moi 1 Timothée 1:1-2. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons nous placer devant toi en commençant cette étude de l'Épître à Timothée, en implorant ta grâce pour que nous saisissions que tout cet écrit vient de toi. Et nous voulons te dire merci parce que c'est une grâce que tu nous l'aies donnée. Il y a tant de sujets qui sont, c'est vrai, parfois délicats, mais important, utile, est vrai aujourd'hui comme il l'était il y a 100 ans, 300 ans, 2000 ans. Seigneur, ta parole traverse le temps, parce que c'est ta parole. Et j'aimerais te prier de nous aider à le saisir. Tu vois, Seigneur, c'est encore relativement facile avec ces deux versets de le saisir. Mais j'aimerais, Seigneur, te prier que cela s'imprime dans nos pensées. Que Paul est l'apôtre de Jésus-Christ. Tu ne l'as pas laissé écrire des choses qui étaient de lui. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que Tu es ce Dieu qui t'adresse aux personnes. Tu t'es adressé à Timothée, qui a un rôle à jouer, mais qui doit aussi transmettre, qui peut se réjouir de voir ce Dieu du salut, ce Dieu, ce Christ de l'espérance qui a donné l'ordre à Paul d'être apôtre de Christ. Et qui lui donne aussi cette joie de se souvenir que Dieu est un Père parfait pour lui. Et que Christ est son Seigneur. J'aimerais te prier, Seigneur, de nous donner à nous exercer à la soumission. Notre société ne nous pousse pas du tout à nous soumettre. Et pourtant, c'est bon de se soumettre à Jésus-Christ. Parce qu'il voudra toujours notre bien. Il voudra toujours notre bien ultime. Et nous te remercions parce que nous pouvons venir à toi et chercher à vivre ta volonté en étant parfaitement paisible. Que tout ce que tu veux et demandes est en lien avec ta sainteté, ta bonté, ta bienveillance, ton amour, ta justice, ta grâce et ta paix. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.